Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans le livre des Actes. Fait qu'il n'y a personne comme ça qui a laissé le scoop aller, là. Y a-tu eu un stool, Alex? Tu me diras ça dans le confessionnal. On va aller régler des comptes après. Je me suis cassé un orteil au karaté, faut que je me défoule. Acte. Acte 5. Alors, je vais vous lire les versets 17 à 42. Ce matin, je vais rouler un petit peu. On avait le repas du Seigneur, on avait toutes sortes de choses. Mais c'est vraiment un beau passage. Alors, j'espère que vous avez pris le dépliant avec le petit inséré. Vous avez le plan de la prédication. Je vous encourage à aller relire ce passage-là. Personnellement, j'ai été vraiment fortifié dans ma foi cette semaine, fortifié dans mon désir. J'ai une prière quotidienne au Seigneur. Seigneur, je veux prêcher l'Évangile régulièrement à des gens qui ne te connaissent pas. Et j'ai eu le privilège de le faire. Alors, je veux vous encourager à être fortifié par ce texte-là. Acte 5, versets 17 à 42. Je vais commencer au verset 12. Il faut que vous voyez un petit peu le mouvement. Il y a quelque chose qui se passe lorsque le souverain sacrificateur se lève, d'accord? Il est en train de réagir. Acte 5, 42. Beaucoup de miracles, de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Vraiment, c'est la majesté du ministère de Jésus-Christ qui est en train de se reproduire ici. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, et mirent la main sur les apôtres, les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. » Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Théudas qui se donnait pour quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On va prier. Seigneur Jésus, quel merveilleux passage qui me parle de ta gloire, de ta splendeur, de ta puissance, mon Dieu. Je lis ce texte et mon cœur est dans l'adoration, car tu es Dieu. Tu es Dieu et tu règnes, Seigneur. Tu es Dieu et tu aimes. Tu aimes les hommes pour les sauver, pour les racheter. À un tel prix que tu étais prêt à donner ton Fils en sacrifice. Ton Fils bien-aimé, celui en qui tu as placé toute ton affection. Seigneur Jésus, tu es merveilleux, tu t'es offert en sacrifice. Ô Père, quelle grâce de connaître l'Évangile et d'avoir ton Esprit en nous. Je te prie ce matin de parler à nos cœurs, Seigneur, dans ces quelques moments dans ta parole. Viens nous instruire, viens nous saisir par ton esprit, viens nous transformer à ton image, Seigneur, et que nous soyons comme ces hommes, ordinaires, de peu d'instruction, Seigneur, puissants en Jésus-Christ pour le salut des âmes. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. Hier, je suis allé au cinéma avec les enfants. On est allé voir un film épique. On est allé voir Avengers avec les enfants. C'est super bon en passant. Pour ceux qui aiment les films, vraiment pas compliqué, là. Pas trop réfléchi, mais drôle. Des super-héros. Il faut être dans le monde des super-héros pour aimer ça. J'ai lu des super-héros toute mon enfance. On est allé voir ça ensemble. Puis ce qui m'a frappé là-dedans, c'est tout des pars-pars, hein? Tout explose, tu sais, c'est les vilains, les gentils, puis ils s'attaquent, puis les gentils ont des super pouvoirs, les vilains aussi. Brrr! Il y a plein de puissance. Ça explose constamment. Puis en même temps, il y avait de l'humour un petit peu tout le long dans le film. C'est fascinant de voir comment ils ont réussi à placer de l'humour là-dedans. Puis bon, ceux qui connaissaient Hulk, je pense que toutes les générations connaissent Hulk, hein, parce que dans le temps, moi j'écoutais Hulk à la télé, là, comment est-ce qu'il s'appelait l'acteur? Lou Ferrigno? Qui faisait Hulk, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il y a mon Hulk qui prend un demi-dieu qui est un des méchants. Puis le demi-dieu commence à crier, puis commence à dire « Je suis un dieu! Qu'est-ce que vous pouvez faire contre moi? » Puis Hulk le prend par la peau du cou. Bang! 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 Il jette à terre et dit « Petit dieu. » Le passage qu'on lit ce matin est un passage où nous voyons un conflit. Un conflit cosmique. Un conflit entre un Dieu tout-puissant, beaucoup plus grand que ces petits héros-là, qui ont de l'air invincibles. On parle de Dieu ici, là. On parle du vrai Dieu. Il y a une belle réplique dans le film que Captain America fait à l'égard de Dieu. Vous pourrez écouter ça, c'est pas mal le fun. Lorsqu'il dit « Ah non, mais il y a des dieux parmi eux. » Non, non, Dieu ne s'habille pas comme ça, je peux vous le dire. Ah, oh, excuse, je donne toutes les punches. Dans le passage qu'on regarde ce matin, il y a un conflit cosmique entre un Dieu tout-puissant un Dieu extraordinaire, un Dieu infini, qui est en lutte contre des hommes qui essaient de faire échouer un plan de sauvetage. Dans le passage de ce matin et à travers toutes les Écritures, nous voyons un Dieu tout-puissant qui est engagé avec toute sa puissance à déployer un plan de sauvetage pour l'humanité. Il vient pour sauver les hommes. Et nous trouvons une poignée d'hommes ici et ailleurs une poignée de nations qui cherchent à s'opposer à ce Dieu-là. Et de la même manière que dans le film, il y avait cet humour qui était là où on voyait que, en fin de compte, les bons vont gagner. Dans le passage de ce matin, il y a beaucoup d'ironie. Dieu est extrêmement ironique dans le passage et à quelque part, il est en train de nous dire qu'il se moque de tous ceux qui essaient de s'opposer à lui. Tournez avec moi dans le psaume 2. Je vais vous relire quelques versets d'un psaume qui a été cité dans la prière par les disciples au chapitre 4. Dans acte 4, il est cité le psaume 2. Et je trouve que c'est un psaume qui donne beaucoup de perspective au passage de ce matin. Il s'agit encore une fois d'un psaume messianique. J'espère que les saucisses ne sont pas déjà en train de cuire parce que... C'est encore un psaume messianique, d'accord? Il y a plusieurs psaumes dans les Écritures qui sont... On les appelle des psaumes messianiques parce que ce sont des textes prophétiques. Peut-être que l'auteur n'en avait pas entièrement conscience lorsqu'il les a écrits, inspirés par Dieu. Mais lorsque nous les lisons maintenant, nous qui connaissons le dénouement, l'arrivée de Jésus-Christ, nous pouvons comprendre ces passages avec une nouvelle lumière et ils apparaissent clairement messianiques. Maintenant, je vous lis quelques versets à partir du verset 1. Psaume 2, 1. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel? » Et contre son oint, contre celui qu'il a élu, celui qu'il a choisi. Les disciples ont cité ce passage dans leur prière, voyant toutes les manigances qui se faisaient pour faire taire l'Évangile. Et ces nations qui sont rebelles disent au verset 3, « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Mais celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ce psaume messianique va trouver son accomplissement entier seulement au retour de Christ, d'accord? Et c'est là qu'on va le voir dans toute sa fureur. Mais déjà dans ce passage de ce matin, on voit ce Dieu tout-puissant qui se rit de toutes les manigances des hommes qui voudraient faire échouer son plan de sauvetage pour le salut des hommes et à sa gloire. Et regardez, c'est assez simple à voir dans le passage, je veux dire, il y a des choses merveilleuses qui sont en train de se faire par les mains des disciples, par les mains des apôtres, tout ça, des miracles, tout ça. Puis là, vous avez à un certain moment donné ma gang de jaloux qui sont en train comme de perdre le contrôle sur le peuple, n'est-ce pas? Ces gens-là veulent contrôler tout ça. C'est leur raison d'être. Ils sont des religieux qui sont là pour dominer. Ils sont pas là pour conduire à Dieu. Et là, leur cote de popularité est pas tellement bonne. Les sondages sont pas bons cette semaine. Et à un certain moment donné, en lisant le journal, en prenant son café, souverain sacrificateur, il n'en peut plus là, de voir les sondages qui sont vraiment pas bons. Et donc, ils se lèvent. Ils mettent la main sur les apôtres et ils les jettent en prison. Luc nous dit, la nuit même, un ange vient, ouvre la porte. Puis qu'est-ce qu'il dit aux apôtres? Poussez-vous les boys, allez vous cacher en Égypte pendant quelques années. Lorsqu'eux autres vont être morts, je vais vous faire... Non, il leur dit, retournez au temple, continuez à les prêcher. On a une espèce de jeu de marionnette où « coucou, coucou », puis ça continue comme ça tout le long. Ils vont encore les arrêter. Qu'est-ce qu'ils vont faire? À la fin du passage, ils sont encore en train d'enseigner dans les maisons, dans le temple. Dieu se rit. Dieu se moque de tous les desseins que les hommes peuvent faire pour s'opposer à lui. On trouve dans ce passage des hommes qui essaient de s'opposer à lui de différentes manières. Premièrement, dans leur cœur, ils ont rejeté Christ. Ça ne veut pas dire que certains d'entre eux se convertiront pas. Ça ne veut pas dire que certains d'entre eux ne se repentiront pas. Mais à ce moment-ci, ils ont rejeté Jésus-Christ et ils ne reconnaissent pas en lui le Messie, loin, le choisi, l'élu de Dieu, le Sauveur d'Israël. Ils font tout en leur pouvoir pour empêcher d'autres de croire en ce Jésus. Et donc, ils vont essayer de faire taire les apôtres afin que le message arrête de se répandre. Et enfin, ils vont persécuter ceux qui annoncent l'Évangile. S'ils ne peuvent pas les faire taire, ils vont au moins chercher à leur faire du mal. Et donc, après même qu'ils aient écouté le conseil de Gamaliel et qu'ils décident de libérer les apôtres, ils prennent soin quand même de les faire battre de verges avant de les faire sortir. Et donc, ils vont les persécuter jusqu'à leur dernière énergie. Mais la lutte est complètement déséquilibrée. Ces gens-là sont en train d'essayer de s'en prendre à Dieu, de s'opposer à Dieu, de lutter contre Dieu. J'ai une question pour vous. Parce que moi, je me la suis posée cette semaine en regardant le texte pour mon propre cœur. Lorsque vous annoncez l'Évangile, quand vous ouvrez la bouche dans votre famille, avec des collègues de travail, avec des voisins, avec des étrangers, et que vous parlez de Jésus-Christ, avez-vous dans votre cœur la conviction que vous êtes dans le camp du super, super, super héros et que c'est lui qui a la victoire entière, que la victoire lui est déjà acquise et que même si on parvenait à vous faire taire pour quelques instants, il est victorieux? Est-ce que vous avez cette conviction profonde dans votre cœur? Si ce n'est pas là, demandez-la au Seigneur. Et je suis allé examiner mon cœur cette semaine puis j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que cette conviction-là grandisse en moi. J'ai besoin de devenir un homme fort de cette conviction que je suis dans le camp victorieux, que je suis au service du Dieu Tout-Puissant et que toutes les manigances qu'il peut y avoir autour de moi pour empêcher que l'Évangile ne soit répandu ne sont rien. Et Seigneur, que tu te moques de ces tentatives de faire échouer ton plan de sauvetage. Si vous n'avez pas cette conviction-là, vous êtes probablement silencieux, probablement craintif. Et le feu et la fougue de ces hommes-là qui tout de suite, hein, l'ange leur dit, retournez là-bas. Yes, sir! Ils s'en retournent là-bas, continuent à prêcher l'Évangile. On les arrête encore une fois. Il faut obéir à Dieu. Ils s'en retournent encore prêcher l'Évangile. Probablement que ce feu-là, cette passion, qui est, je crois, une des manifestations de la plénitude de l'Esprit, n'est probablement pas là. Et nous voulons la demander à Dieu. Ce matin, je veux souligner brièvement trois éléments de ce plan de sauvetage de Dieu. Premièrement, un Dieu souverain et tout-puissant. On va juste revoir quelques éléments ensemble, souligner ça. Premièrement, un Dieu souverain et tout-puissant. Deuxièmement, quel est ce plan de sauvetage pour les êtres humains? Quel est le plan de sauvetage de Dieu? Et enfin, troisièmement, un ingrédient très important dans le passage, des hommes bien ordinaires, mais obéissants. Des hommes bien ordinaires, mais obéissants. On voit dans le texte un Dieu qui est tout-puissant parce que le texte est rempli d'ironie. Le texte nous manifeste à plusieurs reprises. Dieu va servir parfois à travers des interventions surnaturelles, parfois à travers des gens très ordinaires qui ne croient même pas en Jésus-Christ, comme Gamaliel. Dieu va manifester sa puissance. Il faut réaliser quelque chose. Lorsque le souverain sacrificateur, puis les huissiers, puis tout ça, jettent les apôtres en prison. C'est pas juste Pierre et Jean. Ce qui est sous-entendu dans le texte, c'est qu'ils prennent les apôtres et les jettent en prison. Ce sont les témoins de la résurrection. Ce sont ceux qui ont marché avec Jésus. Puis Dieu dit par son ange, retournez au temple. Dieu est en train de prendre une chance avec ses meilleurs éléments. Ce sont les apôtres, ce sont les dépositaires de l'Évangile. Ah, il y a eu des centaines de témoins de la résurrection de Jésus, c'est ça que la Bible nous dit. Mais ces hommes-là ont eu ce mandat très unique et très spécial. Ils ont été formés. Ils sont tous jetés en prison. Mais qu'est-ce qui arrive s'ils sont tous éliminés? Le plan échoue? Qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous, Dieu n'est pas craintif comme nous. Dieu n'a pas peur en se disant, regarde, on va en laisser un rentrer en prison, d'un coup que j'arrive pas à le faire sortir, il va m'en rester quelques-uns, puis tranquillement, le temps qu'il y en ait plusieurs qui connaissent l'Évangile, quand il y aura assez de monde qui connaîtront l'Évangile, peut-être qu'on pourra les laisser se faire éliminer. Toute la gang en prison. OK, les boys, retournez prêcher. Oh, mais on va être jetés en prison. Tu fais-tu tes calculs? Je suis Dieu. C'est un Dieu tout-puissant qui est engagé dans un plan de sauvetage. Et c'est ça qu'il nous manifeste ici. Sa puissance, sa souveraineté. Il est souverain. Des fois, ce mot-là perd son sens dans notre esprit. Un souverain, c'est un roi. Mais lui, c'est le roi de l'univers. C'est un roi qui règne avec toute puissance, qui connaît combien de cheveux il y a sur votre tête, combien en reste sur la mienne, combien vont tomber demain matin quand je vais me laver les cheveux. Il connaît tout. Il sait à quelle date je vais mourir. Il sait quand les enfants vont naître. Il connaît notre état de santé, quand est-ce qu'une première maladie va se déclarer. Il connaît tout. Et il règne sur tout. Il n'est pas seulement connaissant, mais il règne sur tout. Dieu règne sur la destinée de l'univers. Et ses desseins s'accomplissent à perfection. Et c'est ce qu'il nous manifeste dans ce passage. C'est ce Dieu que nous servons lorsque nous ouvrons la bouche pour Jésus-Christ et annonçons l'Évangile de Jésus-Christ. Il intervient surnaturellement. Il intervient surnaturellement à travers les miracles qui se font par les mains des apôtres. Il intervient surnaturellement par l'ange qui est envoyé. Il intervient surnaturellement par les milliers de conversions qui se produisent à ce moment-là. Il intervient souvent aussi en manifestant sa souveraineté à travers des gens qui sont pas là pour le servir. Gamaliel ne croit pas en Jésus-Christ. Gamaliel, pour l'instant, a rejeté Jésus-Christ. Il n'est pas là pour défendre le nom de Jésus-Christ. Mais c'est impossible de lire ce passage, bien que Luc ne nous dise jamais le Saint-Esprit ou Dieu dit à Gamaliel de dire ceci. C'est impossible de lire le passage et ne pas voir la main souveraine de Dieu. Simplement dans les paroles que Gamaliel va dire, il y a encore de l'ironie. Ne prenez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. C'est parce que ça fait déjà un bon bout. Non, mais vous connaissez l'histoire, tu sais, qu'il y en a un qui est mort, puis tous ses disciples sont partis. C'est ça justement, celui-là est mort, puis ils sont encore tous là, ses disciples. Puis ils n'ont pas peur, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Voyez-vous, même dans le discours de Gamaliel, nous voyons la souveraineté de Dieu. Comment ça s'opère? Il y a des choses qui sont mystérieuses, mais nous annonçons nous-mêmes l'Évangile. Et à tout moment, il va y avoir quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui va faire une intervention, qui va venir appuyer notre témoignage pour l'Évangile. Vous l'avez vécu certainement dans vos familles, au travail, et nous voyons la main souveraine de notre Dieu disposer toutes choses pour l'annonce de son Évangile. Alors, Dieu est tout-puissant. Il intervient surnaturellement, il manifeste sa souveraineté en intervenant de manière mystérieuse, même à travers des gens qui ne sont pas là pour son service. Enfin, il manifeste sa puissance par son esprit, à travers ses serviteurs qui lui obéissent. Et dans le passage ici, un petit peu comme la semaine dernière, il manifeste sa puissance autant à travers les apôtres qu'à travers l'ensemble de la communauté des croyants. Je vais attirer votre attention sur le verset 32, s'il vous plaît. Acte 5, 32. Quelque chose qu'on peut manquer si on ne lit pas le texte attentivement, puis il y a vraiment une perle qui est là, assez extraordinaire. Pierre dit, « Nous sommes témoins de ces choses, parlant de la résurrection de Jésus-Christ, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Et Pierre est en train de dire ici que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, vous vous rappelez, ont reçu le don du Saint-Esprit, la promesse qui est pour tous ceux qui croient, c'est le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit. Et tous ces gens-là ont reçu le don du Saint-Esprit et savent en eux-mêmes, comme l'apôtre Paul nous le dit, nous savons que nous appartenons à Christ, nous savons que Dieu est vrai parce que son Esprit est en nous et nous prions Dieu par son Esprit. Mais non seulement cela, je crois que Pierre est en train de faire allusion ici au témoignage extraordinaire de cette communauté de croyants qui est en train de bouleverser complètement Jérusalem. Cette communauté de gens-là qui s'aiment, qui prennent soin les uns des autres, c'est un témoignage puissant de la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, il y a ces témoins oculaires, les apôtres et les quelques centaines qui étaient là au début, mais vous et moi, si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous sommes aussi par le fait même témoins de la résurrection de Jésus-Christ parce que nous sommes ressuscités spirituellement et son Esprit nous conduit en toutes choses. dans sa parole, il nous façonne et nous transforme. Cette semaine, à plusieurs reprises, c'était clair pour moi. Je disais, Seigneur, c'est toi qui es en train de me dire ça. C'est toi qui es en train de me voir que ma parole ici a manqué de grâce. C'est toi qui es en train de placer sur mon cœur juste de faire un petit téléphone par amour, par affection, pour faire un petit suivi ici. Et c'était clair pour moi que c'était une œuvre de Dieu en moi. J'étais pas là par intérêt personnel. Mes intérêts charnels auraient été ailleurs, mais c'était une œuvre de Dieu. Et donc, dans la communauté des croyants, cette semaine, je suis allé visiter Marcel Lapointe. Je l'ai mentionné tout à l'heure pendant la prière. Je suis allé visiter Marcel Lapointe. Je vous ai mentionné dimanche dernier, Marcel est atteint d'une maladie dégénérative. Il est hospitalisé à Charlemagne. Et puis, j'ai pris des nouvelles. Il allait bien. Il était tellement édifiant dans sa foi. Mais à un certain moment donné, Marcel m'a dit quelque chose qui m'a touché. Puis, j'ai dit, il faut que je le partage avec l'Église. Marcel, il m'a dit, j'ai reçu tellement d'amour dans cette Église-là. Ça fait plus de 20 ans qu'il est au Seigneur, Marcel, ou 15 ans qu'il est au Seigneur. Il dit, j'ai reçu tellement d'amour dans cette Église-là. Puis comme pasteur, tu es comme toujours en train de réfléchir. Hein? OK, comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui? C'est quel ministère? On fait-tu bien les choses? Là, je m'arrêtais puis je disais, OK, c'est Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans le corps de Christ. Je peux pas retracer le fil conducteur de toutes les interventions de l'Esprit à travers le peuple de Dieu. C'est impossible. Nous sommes un corps qui prenons soin les uns des autres. Et ceci est un témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Un Dieu souverain et tout-puissant. Qui voudrait combattre un tel Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui veut encore s'opposer à Dieu? Sonde les Écritures, apprends à le connaître. Apprends à le découvrir comme il est merveilleux, puissant et amour. Deuxièmement, un plan de sauvetage pour les êtres humains. Dieu est engagé dans un plan de sauvetage pour l'humanité et rien, personne, on a cité un texte tout à l'heure pour le repas du Seigneur dans la louange, aucune autorité ne va pouvoir s'opposer et renverser le plan de sauvetage que Dieu a déterminé dans sa souveraineté d'accomplir pour le salut des hommes. Amen. Il n'y a rien qui va pouvoir arrêter ça. Il n'y a aucune nation sur la terre, aucun peuple, aucun homme qui, par ses philosophies, par ses attaques contre les Écritures, par ses attaques contre les croyants, contre les chrétiens, par son mépris envers Christ, ne va pouvoir arrêter cette vague d'un plan de sauvetage. Dieu est en mouvement et Dieu sauve, et Dieu sauve, et Dieu sauve, et Dieu sauve encore. Réalisez-vous que nous sommes au Québec. J'ai cherché cette semaine sur MapQuest combien de temps ça me prend pour aller en Israël. Je voulais comme mesurer la distance. MapQuest m'a dit, j'ai pas de trajet pour ça, Yannick. Fait que j'ai pas d'heure à vous donner. Mais comprenez-vous que ce matin, on a pris le repas du Seigneur. On est en train de prêcher la parole de Dieu, prêcher l'Évangile, célébrer Jésus-Christ. Nous sommes 2000 ans après la crucifixion d'un monsieur sur une croix, dans un tout petit pays mystérieux, obscur. Et nous sommes en train de célébrer la gloire de Jésus-Christ. Le même message que les apôtres proclamaient, nous sommes en train de le proclamer par la grâce de Dieu. Il n'y a rien qui va arrêter Dieu. Dieu va sauver à travers tous les anges jusqu'au retour de Christ. Dieu est engagé dans un plan de sauvetage pour les hommes. Et son plan de sauvetage, c'est un message de vie. Un message de vie, un message de salut. J'aime ça comment l'ange dit aux apôtres. Il leur dit au verset 20, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Le plan de sauvetage de Dieu, c'est qu'il veut apporter la vie aux hommes. Il veut apporter la vie éternelle et la vie éternelle dès maintenant aux êtres humains. Il dit, « Voici Pierre, dit voici le message qui nous est donné d'annoncer en Jésus-Christ que Dieu a élevé. » C'est la repentance. Dieu veut donner la repentance au peuple d'Israël et il veut leur donner le pardon des péchés. C'est un message de vie pour un être humain qui est incurvatus in se, qui est centré sur lui-même, qui est dans un processus égoïste d'autodestruction où il ne veut pas reconnaître son Dieu, son Créateur, et qui est détourné de lui-même pour se tourner vers Dieu. Et accepter la grâce du pardon en Jésus-Christ, être réconcilié avec Dieu, recevoir le don du Saint-Esprit et entrer dans cette vie nouvelle dès maintenant. Dès maintenant et pour l'éternité. Amen. C'est un message de vie. Et pour la première fois dans le livre des Actes, c'est appelé évangéliser. Si vous allez à la fin du verset 42, il dit « Chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer l'évangile Evangelion pour bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, la bonne nouvelle que Jésus est le Christ, celui qui a été choisi, le Messie, le Sauveur des hommes. Voici le message que nous sommes appelés à annoncer aux hommes. Nous sommes appelés à leur parler de Jésus qui est le Christ, le Sauveur, ici dans le passage d'Israël. Mais bientôt, Dieu va les répandre jusqu'aux extrémités de la terre et va les envoyer. Et Dieu est le Sauveur à travers Jésus-Christ de tous les hommes. Cette parole de vie que nous avons à donner aux hommes, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus le Christ. La bonne nouvelle qu'en croyant en Jésus, Dieu va me donner la repentance qui va m'amener à me détourner de moi-même pour me tourner vers Dieu. Dieu va m'accorder le pardon de mes péchés. Et je vais savoir que tout ce qu'il y a d'obscur dans ma vie, tout ce que je ne voudrais pas qu'il soit dévoilé au jour où nous comparaîtrons tous devant Dieu, ce soit déjà pardonné à l'avance. Et qu'en ce jour glorieux, j'ai cette confiance absolue que Jésus-Christ va se tenir là et qui va dire « Père, ce compte-là a déjà été payé. » Le compte de Yannick Étier. Et il était lourd, ce compte-là. Il méritait tous les clous qui ont été cloués en Christ. Il a déjà été payé. C'est mon frère. Il passe. Ça, c'est le message de vie qu'on est appelé à donner. Et ce message de vie-là vient apporter la guérison dans les âmes, dans les cœurs, dans les foyers. Il vient nous transformer progressivement à l'image de Christ. Le dernier élément, le troisième élément de ce plan de sauvetage, ce sont des hommes bien ordinaires, mais obéissants. Ce sont des hommes qui n'ont aucune autorité. Il y a une lutte d'autorité dans le texte ici. Vous avez l'autorité officielle qui sont là, instituées depuis des siècles. Et vous avez ces gens de rien qui viennent. Ils n'ont aucune autorité. Ce sont de petites gens. L'Église a toujours été composée plus majoritairement. Vous savez que c'est ça une Église, hein? À travers tous les siècles, dans les Églises, il y a moins de professionnels, moins de gens instruits que ce qu'on trouve dans la société en général. Il semble que l'instruction enfle la tête et indispose le cœur à l'Évangile. Je ne suis pas en train de m'en prendre aux professionnels dans l'Assemblée. Dieu vous a accordé une grâce de pouvoir étudier et découvrir l'humilité. Ça, c'est toute une grâce. Mais vous savez que les églises ont toujours été composées de gens moins instruits que la moyenne. Et c'est le cas ici aussi. Pourtant, ces gens-là sont là et se tiennent debout. Des gens bien ordinaires, sans autorité, sans instruction particulière. Ah, oh, il y a un Paul qui va apparaître bientôt. Waouh, ça va être super. Une chance qu'on avait Paul. Non. Je pense que Dieu aurait fait ce qu'il avait à faire comme il le voulait. Regardez ce qu'il est en train de faire avec des gars qui réparaient des filets, puis qui ouvraient des poissons, puis qui savaient comment tirer un filet. Ces hommes-là se tiennent debout devant les autorités de l'époque. Ils sont censés être des ignorants comparativement aux autorités qui sont devant eux. Et ils sont là, debout comme un seul homme. Des hommes qui n'ont aucune autorité, aucune instruction humaine, mais qui ont été instruits par l'Esprit de Dieu à connaître les choses de Dieu. Et si vous appartenez à Jésus-Christ, Dieu vous instruit par son esprit à travers sa parole à connaître les choses de Dieu. Des hommes qui préfèrent obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voyez-vous, ces hommes-là savent que Dieu est tout-puissant. Il y a une espèce d'équation mathématique simple dans le texte. Ils sont là devant les autorités, puis les autorités peuvent s'en prendre à leur vie, mais ils ont une conviction profonde dans leur cœur. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Toute personne qui me demande de ne pas parler de Jésus-Christ, quand ma vie finit, je vais comparaître devant Dieu. Ils disent, écoutez les boys, c'est pas qu'on voudrait pas, tu sais, être accommodant, puis... mais je pense qu'on est mieux d'obéir à Dieu. Parce que là, vous nous demandez de désobéir à Dieu. En se taisant et en n'annonçant pas l'Évangile de Jésus-Christ. puis tout bien pensé. On préfère avoir une petite tape sur les fesses de votre part plutôt que de se présenter devant Dieu puis avoir été trouvé infidèle. Ces gens préfèrent obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Des hommes qui connaissent l'Évangile et l'annoncent. Alors évidemment, ils connaissent le message de la bonne nouvelle. Ils sont capables de l'articuler. Ils peuvent l'enseigner à leurs enfants, ils peuvent l'enseigner à un passant, ils peuvent l'enseigner à un Romain, ils peuvent l'enseigner à un Juif. Ces hommes ont appris à comprendre davantage. Ils ont été instruits par Jésus, instruits par l'Esprit, et ils connaissent ce message. Tout à l'heure, il y avait des enfants qui étaient ici, puis Daniel faisait une demande en disant, venez vous impliquer avec nous auprès des enfants. Vous savez, c'est quoi la pensée qui m'est passée par la tête? Quand chacun d'entre nous ici saura énoncer clairement l'Évangile pour un enfant, avec les questions profondes qu'un enfant de 8-9 ans peut poser. Ils arrivent à un âge, à 8-9 ans, là, ils ont des questions philosophiques, des fois grosses. Là. Quand chacun d'entre nous va savoir présenter l'Évangile à un petit enfant comme ça, watch out. On va être prêt à sortir et présenter l'Évangile à quiconque. Ces hommes-là savaient articuler l'Évangile. Ils n'avaient pas été seulement sauvés, mais ils pouvaient aussi communiquer ce message de vie aux gens autour d'eux. Des hommes qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Et c'est le facteur déterminant ici. Comment tu peux être jeté en prison, qu'un ange te dise, retourne-y, oui monsieur, tu es jeté en prison, puis là on dit, non mais on vous interdit de faire ça, vous savez qu'on a droit de vie et de mort, sur vous on peut s'arranger, on vient d'en crucifier un, vous savez, hein? Ces hommes-là sont remplis de l'Esprit de Dieu. Et certainement, quotidiennement, ils examinaient leur cœur et ils confessaient à Dieu chaque fois qu'ils se détournaient de lui. Parce qu'ils demeurent pécheurs, c'est clair. Pierre va être réprimandé un peu plus loin. Donc, ces hommes-là examinaient leur cœur afin de s'assurer de ne pas attrister l'Esprit de Dieu, mais rester près de Dieu et constamment prêt à aller à l'assaut. Demandant à Dieu, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Nous voulons voir la puissance de ton esprit se manifester. Dans Actes 1-8, Jésus a fait une annonce, une prophétie, une promesse. Il dit aux apôtres, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est ça qui est en train de se produire ici. C'est par la puissance de l'Esprit-Saint que ces hommes-là se tiennent debout et font ces choses et prêchent ce message sans aucune crainte à l'égard des hommes. Et qu'ils peuvent, à la fin, après avoir été battus, se réjouir d'avoir subi des outrages pour le nom de Jésus-Christ. Ça prend la plénitude de l'Esprit pour faire ça. Me réjouir d'avoir que quelqu'un se soit moqué de moi. Me réjouir que quelqu'un m'ait frappé. Me réjouir que quelqu'un ait porté atteinte à mon nom, à ma réputation, à cause de Jésus-Christ. Pas parce que j'ai fait le tata, là. Parce que j'ai proclamé, j'ai annoncé Jésus-Christ. Parce que je suis un chrétien. Et me réjouir de ça. Que ce soit pour moi un honneur et une gloire d'être méprisé pour le nom de Christ, lui qui a été maudit pour mon salut. Ce sont des hommes qui aiment leur prince et leur sauveur plus que la vie. C'était évident que lorsque l'ange les a retournés là, c'était pas garanti qu'ils allaient sortir. Dans quelques temps, un chapitre, Étienne va mourir, Jacques va mourir, Dieu ne va pas tous les réchapper. L'histoire de l'Église est remplie de martyrs. L'Église des premiers siècles, l'Église primitive, on les compte par milliers, les martyrs. Et pourtant, Tertullien disait, « Le sang de nos martyrs est une semence pour l'Évangile. Plus vous nous tuez, plus nous nous multiplions. » Ces hommes-là aimaient leur prince et leur sauveur plus que la vie. Et je pense que c'est important de le souligner, ces hommes-là étaient des hommes heureux. C'était des hommes heureux. C'était des hommes heureux en Dieu. Les circonstances ne déterminaient pas l'état de leur bonheur. Ça ne peut pas être plus fort que ça, là. Tu es dans une geôle, on te frappe, on te bat, tu sors de là tout joyeux, rien consommé. Sinon l'Évangile. Sinon être rempli de l'Esprit. et ce sont des hommes heureux. C'est contagieux, ça, être bonheur, être heureux en Jésus-Christ. C'est très contagieux. J'aimerais ça vous encourager cette semaine, et dans la petite feuille, on a mis une espèce de petite affaire à crochet, vous allez voir. Est-ce que vous êtes comme ces hommes? Parce que voyez-vous, ici, ce sont les apôtres, puis jusqu'ici, on est comme en terrain confortable, tu sais, parce que c'est une gang d'élus choisis. Tu sais, les miracles se font par eux, c'est eux qui annoncent l'Évangile. C'est, pfiou. Il y en a qui sont pas un apôtre, mais ils brèchent en avant, avec peut-être qu'il y a un appel qui ressemble à ce gars-là. Tu sais. Mais là, dans le prochain chapitre, on va commencer à voir Étienne, puis on va commencer à voir d'autres personnes intervenir, et ça va commencer à se multiplier. Puis lorsqu'on va arriver dans Actes 8-4, voici ce qui est écrit. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et on va arriver à un certain moment donné où Dieu va déployer, va relâcher. Boom! Les gens, les disciples vont se répandre partout et chacun, dans la mesure de sa connaissance et de ses dons, va répandre la bonne parole, cette parole de vie de l'Évangile. Alors, j'aimerais vous encourager cette semaine à vous examiner honnêtement devant Dieu. Puis dire, Seigneur, de ces qualités-là, je pense que celle-là puis celle-là qui... c'est pas là dans ma vie, Seigneur, et j'ai besoin de grandir là-dedans. Parce qu'après tout, je veux te glorifier et je veux être heureux en toi. Et je veux voir des âmes venir à toi. Et je veux être prêt, Seigneur, à ne jamais avoir honte de toi pour me présenter devant toi un jour puis dire, Seigneur, je me suis tenu debout pour ton nom. À cause de ta gloire, à cause de ta grâce, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous servons un Dieu tout-puissant. Et même si des fois, dans nos petites situations, dans nos familles, tout ça, où on essaie de proclamer l'Évangile autour de nous, on sent que le message ne passe pas, puis on a l'impression que tout dépend de notre petite capacité à bien articuler les affaires, puis tout ça. Nous servons un Dieu tout-puissant qui se moque, qui se rit de tout ce que les hommes peuvent manigancer pour faire taire l'Évangile. Il a déjà gagné la victoire. Et il va le manifester de manière glorieuse au retour de Jésus-Christ. Et Dieu se rit de toutes les tentatives. Et l'histoire de l'Église est là pour le manifester. Cet Évangile-là ne sera pas arrêté. Il va être proclamé jusqu'aux extrémités de la terre, à toutes les nations de la terre, et Christ reviendra. Et nous avons besoin de grandir en cela. Nous avons besoin de posséder sur le bout des lèvres le message de l'Évangile, ce plan de sauvetage, pour pouvoir le proclamer à tout moment. Et nous avons besoin de grandir en Jésus-Christ afin d'être des hommes et des femmes ordinaires, mais qui sont remplis de l'Esprit, qui n'ont pas peur pour leur vie parce qu'ils veulent servir leur Seigneur et qui ouvrent la bouche joyeusement pour Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, tu es vivant dans mon cœur et dans ma vie, tu es vivant, Seigneur, dans les cœurs et la vie de millions de chrétiens dans le monde, Seigneur. Et tu sauves, et tu sauves, et tu sauves encore depuis des milliers d'années, Seigneur. Tu t'es manifesté dans ta puissance par ta résurrection, et tu t'es manifesté dans ta puissance par notre résurrection spirituelle, Seigneur. Et déjà, tu nous transformes. Et je sais, Père, parce que je suis comme tout le monde, et souvent j'ai l'impression d'être plus qu'un homme ordinaire, d'être très ordinaire. Mais j'ai besoin, Seigneur. Et nous avons besoin d'être remplis de ton esprit, de cette puissance, Seigneur, qui est là, qui habite en nous. Montre-nous si nous t'avons attristé, d'une manière quelconque, si nous avons attristé ton esprit. Montre-nous, Seigneur, ces endroits où nous devons fortifier notre foi en toi, afin que ton nom puisse être glorifié. Et Seigneur, que sans peur, nous annoncions Jésus-Christ dans la mesure du don de chacun. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. Avant qu'on ait dans un chant, je veux juste vous mentionner, tout de suite après, on s'installe un peu pour le repas, bénéfice. Et puis les membres, premièrement, parce qu'on en a fait un certain nombre de copies, on vous invite à aller prendre une copie du rapport annuel au kiosque d'accueil à la sortie.